RCF.
Et je dirais même plus RCF, Reims-Ardenne. Il y a du monde autour de la table, on va tout vous expliquer avec Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudrette, c'est le 18-19.
Le 18-19 pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
C'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal d'invités en direct bien évidemment.
Effectivement, on va peut-être faire le tour de la table avec, même si on est sur un magazine local, toujours nos chroniqueurs, nos habitués du mercredi, j'allais dire Jean-Pierre.
Oui, et l'habitué du mercredi est à mes côtés, c'est Robert Auverger. Bonsoir Robert.
Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir.
Alors vous, c'est une chronique sur un mot, et aujourd'hui le mot que vous avez réservé.
Dopage.
Dopage, on voit qu'on se rapproche des Jeux Olympiques, mais
non,
bien
c'est
entendu,
pas,
dans
c'est
cette
pas,
épreuve sportive,
c'est pas lié,
personne bien sûr, tout le monde est au-dessus de tout soupçon. Et puis Alexis, on a d'autres invités également.
Effectivement, si je me tourne à ma gauche, je vois Bernard Delarue. De l'Oriston, de la Fondation du Patrimoine en Champagne-Ardenne. Bernard, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
De quoi s'agit-il aujourd'hui? Votre venue, je crois qu'elle est liée à Jean Mermoz.
Exactement Jean-Pierre, l'idée c'est de refaire un petit point sur Château Mermoz à Roquigny, sélectionné comme projet emblématique Grand Est de la Mission Berne.
Mais alors, quel est le lien entre ce château de Roquigny et Jean Mermoz?
Eh ben, c'est un château que Jean Mermoz a acheté pour sa mère en 1934 pour qu'elle puisse y habiter.
Il faut dire aussi qu'il avait dû passer quelques années de sa vie dans les Ardennes, un petit peu je crois, du côté de Mimbrécy.
Exactement, alors en fait il est né au Banton, donc dans l'Aisne à la frontière de la Tierra Chardonnaise, et il a passé le plus clair de son temps chez ses grands-parents à Mimbrécy, tout près de Roquigny.
Et c'est un aviateur dont la carrière était exceptionnelle, comme Guynemer, comme Saint-Exupéry, et le château de Mimbrécy, il y a vécu, enfin pour sa mère en tout cas.
Oui, il y a surtout vécu, c'est surtout sa mère qui a vécu, lui il venait quand il rentrait de mission, voilà.
Donc on se retrouve dans une vingtaine de minutes, après Robert Auverger et après aussi un autre invité qui est avec nous.
Effectivement, Yannick Huro qui vient de faire paraître aujourd'hui avec Didier Louis, qui a été rédacteur en chef pendant très longtemps de la rédaction de l'Union Lardonnais, les mémoires de Yannick Huro du côté de Gesponsard dans les Ardennes. Et d'ici quelques minutes,
oui,
sans trahir de secret,
dans 20 minutes,
il va y avoir une petite fête en l'honneur de Yannick Huro.
Alors une petite fête, et je pense qu'il y aura beaucoup d'Ardennais qui seront présents sur place, des élus, des hommes politiques, en tout cas aussi les responsables du football du club de Sedan, car il avait beaucoup fréquenté Louis Dugoguez, Pascal Urano et toute l'équipe de Sedan et également.
Certainement, on verra bien qui sera
on
là-bas.
Verra bien.
On aura un retour sur événement, comme on dit. Et puis parmi les points de repère, on aura également Bruno Cauchemet, qui est maire d'une commune, il est maire de Romigny dans la Marne.
Absolument.
Il nous parlera, mais exceptionnellement, on le retrouvera plutôt en fin d'émission, tout comme Alice Dark, notre stagiaire à la rédaction. Alice, bonsoir.
Bonsoir.
Qui nous présentera la météo.
Et puis, puisqu'on a beaucoup évoqué les Ardennes avec Yannick Huro et aussi avec Bernard Delorison et Jean Mermoz, toi aussi, je crois que tu es d'origine, enfin, en tout cas, tu vis dans les Ardennes.
Effectivement.
Comment s'appelle cette belle petite commune des Ardennes que tout le monde admire?
Elle s'appelle Barbie.
Barbie, c'est à côté de Rethel. Vous connaissez Bernard? Mais bon, peut-être que là, il y a quelque chose à rénover dans le patrimoine et qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler dans les jours prochains.
Pourquoi pas?
18h13, c'est l'heure de retrouver avec nous, il est en direct. Robert Auverger, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors votre mot du jour, c'est le mot dopage.
Tout à fait.
Alors un mot qu'on entend souvent à propos du monde des sports, mais je suis certain que vous ne l'avez pas choisi parce que nous approchons, on l'a dit, des Jeux Olympiques.
Bah évidemment, nous savons tous que les athlètes ne se dopent plus. Peut-être de rares exceptions près, mais on n'en est pas sûr.
Alors qu'entend-on exactement par dopage?
Eh bien, en bref, dans le sport, le dopage est la pratique consistant à absorber des substances chimiques et à utiliser des actes médicaux afin d'augmenter ses performances.
Alors, depuis quand exactement on emploie le mot dopage, au fait ?
Eh bien, les drogues, les psychotropes sont une obsession séculaire, mais on ne parle de dopage qu'à partir des années 1920 environ. Si, je le répète, l'utilisation de drogues stimulantes est très ancienne, elle ne reçoit le nom de dopage qu'à l'époque où le sport moderne se répand, souvent en provenance d'Angleterre.
Alors est-ce à dire, puisque vous parlez de l'Angleterre, que le mot dopé est emprunté à la langue anglaise?
Tout à fait, mais le mot dope vient du néerlandais dupe, qui désignait innocemment une sauce dans laquelle on faisait trempette le mot étant apparenté à Dieppe, qui signifie profond, tout comme le mot anglais deep.
Alors, tremper une tartine dans son café au lait additionné de céréales, c'est tout de même pas se doper, Robert.
Ben non, au sens du mot aujourd'hui, évidemment non, mais c'est tout de même booster son organisme en prévision d'efforts physiques ou intellectuels. Alors, en anglais, to deep signifie tremper, et l'on passe de deep à dope. Après tout, que faisait le grand Honoré de Balzac en buvant café sur café de manière à stimuler sa créativité de romancier?
Alors vous nous disiez, Robert, comme vous le faites dans votre chronique sur les mots le mercredi, que le dopage est une pratique ancienne. Alors dans les Jeux olympiques antiques, est-ce qu'on se dopait?
Oui, mais c'était avec des stimulants et des hallucinogènes, mais essentiellement avec de l'alcool, au point qu'un juge placé à l'entrée du stade reniflait l'haleine des compétiteurs.
Alors comment en est-on arrivé au dopage actuel depuis quelques années tel que nous le connaissons?
Au milieu du 19e siècle, on trouve le premier cas avéré de dopage chez les nageurs à Amsterdam. Ensuite, en 1896, Arthur Linton sera le premier mort à cause du dopage, mais c'est surtout au XXe siècle, évidemment, que le dopage s'est développé.
Alors, on a quelques soupçons dans certains sports plus que d'autres, mais y a-t-il justement des sports plus touchés que d'autres au XXIe siècle, au XXe siècle?
Oui, le plus connu, évidemment, est le cyclisme. Il est commun entre 1850 et 1950 de prendre de plus en plus de produits stimulants qui n'augmentent pas les capacités physiques, d'ailleurs, des athlètes, mais qui leur permettent seulement de pouvoir atteindre leurs limites en luttant contre la douleur. Et puis ce n'est qu'à partir de 1960 environ que la recherche s'intéresse à comment augmenter leurs capacités physiques chez tous les athlètes.
Alors pour quelles raisons, mis à part l'amélioration des performances des athlètes, le dopage va-t-il à ce point se développer?
Eh bien les raisons sont multiples. La première est évidente, c'est la course permanente au record. Outre cette raison, il y a aussi la pression d'enjeux financiers de plus en plus importants, surtout dans le sport professionnel, évidemment. Il y a eu et il y a probablement encore des avancées scientifiques, particulièrement en matière de médecine sportive.
Sans oublier ce qu'on appelait naguère le dopage d'État. Alors
oui,
là, il faut expliquer.
Oui, l'un des exemples les plus connus reste les Jeux olympiques d'été de 1952, qui ont marqué et ont été marqués par les 7 médailles soviétiques en haltérophilie. Et puis rappelons-nous aussi les Jeux de Berlin de 1936 qui étaient censés mettre en lumière et glorifier le nazisme et son chef. Alors au plan sportif, c'est d'ailleurs l'Allemagne qui remportera le plus grand nombre de médailles devant les États-Unis.
Avec tout de même un gros hic, comme
oui,
on dit, les 4 médailles d'or de l'athlète noir américain, Jean Sowens, qui ont mis Hitler en rage, il faut le rappeler de ça.
Oui, mais on ne savait pas s'il était dopé. Enfin, je parle évidemment de Jesse Owens, bien sûr, et non pas d'Hitler.
Alors, quel organisme est chargé de lutter contre le dopage? Il y en a un aujourd'hui?
Oui, le principal, c'est l'Agence mondiale antidopage. C'est une fondation internationale et indépendante qui a été créée en 1999.
Alors, en conclusion, l'esprit sportif est-il mis à mal par le dopage?
Je le crois, le dopage me semble être l'une des formes les plus dangereuses de la dérive de ce qu'on appelle l'idéal sportif.
Et on peut le définir comment, cet idéal sportif?
Tout simplement, l'idéal sportif suppose l'énergie, le dépassement de soi, l'entraînement, la loyauté bien sûr, et le respect envers ses adversaires et envers soi-même.
Alors comment expliquer que cet idéal soit trahi par les athlètes qui se dopent?
Tout bien pesé, le dopage n'est-il pas d'abord un artifice qui détruit la santé des sportifs pour obtenir de l'extraordinaire, du spectaculaire, du sensationnel? Et puis finalement, je pense qu'on peut se poser une question. Les athlètes qui se dopent sont évidemment des tricheurs, mais ne sont-ils pas avant tout des victimes?
La semaine prochaine, Robert, on vous remercie. On va pas essayer de se doper avec Alexis qui, lui, boit toujours en tant que sportif la fameuse cristalline chère à l'entraîneur d'Auxerre, Giroud. La semaine prochaine,
nous parlerons de l'école.
On parlera de l'école, oui. Mais on est en vacances quand même, normalement.
Oui,
enfin, on parle de l'école.
Justement.
Voilà. Merci Robert Auverger, la semaine prochaine. Il est 18h20. À la semaine prochaine, mercredi prochain. Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Les mémoires de Yanny Huraud, désormais dans ce magazine local. L'ouvrage vient de sortir aujourd'hui. Yanny Huraud et Didier Louis en sont les auteurs. Le premier cité est avec vous, Jean-Pierre.
Yanny Huraud, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, en ce mercredi 24 avril, paraît votre livre « Les mémoires de Yanny Huraud ». On attendait cette parution, on se disait un jour il va écrire ses mémoires, Yanny. C'est aussi l'histoire de compagnonnage avec l'Ardennais. Vous allez nous en parler parce que c'est une véritable aventure.
Oui, c'est une aventure d'ailleurs qui, paraît-il, sans vanité aucune, est assez unique dans la presse régionale française. Depuis 30 ans, pour ainsi dire chaque jour, je fais un billet qui s'intitule « La Bequette » et qui m'a amené dans le journal L'Ardennais, pas dans l'Union des Ardennes, c'est fait exprès pour accentuer la personnalité ardennaise, à la fois de mon propos et bien entendu du journal. C'est un peu une folie, un pensum, vous imaginez ce que c'est de trouver chaque jour un thème, qui plus est avec ses mots « Regard sur les Ardennes et sur l'Ardenne ». C'est Didier Louis qui était à l'époque rédacteur en chef, il y a 30 ans de ça, qui m'a lancé dans cette folie. Et c'est lui qui, il y a à peu près 18 mois de ça, s'est mis dans l'idée de me demander d'écrire mes mémoires, un mot un petit peu quand même un peu excessif. Je ne suis pas de Gaulle. Et finalement, j'ai accepté, nous avons fait des heures d'entretien, et nous avons en quelque sorte écrit ce livre ensemble. Voilà, il va paraître. Et alors, le journal m'a fait encore une surprise. C'est sans que j'ai été tenu au courant. Ils ont alerté le maire de Gesponsard en lui disant que ce serait dans la salle polyvalente de la commune que l'ouvrage serait présenté pour, en quelque sorte, à la fois, évidemment, me faire plaisir, mais en même temps, enraciner vraiment le livre comme la bequette dans son fief, qui est mon fief ancestral du petit village de Gesponsard.
C'est donc ce soir que va être présenté officiellement et lancé ce livre. Il faut dire, quand on parle de livre et d'ouvrage, Yanny Huraud, vous êtes un écrivain. Vous avez publié La Prof, Bille de Chêne, Le Pain de Suie et j'en passe et des meilleurs. Donc, ces mémoires, c'est vraiment quelque chose qui est branché sur la bequette, branché sur le journal, avec les gens que vous avez rencontrés. Et vous en avez rencontré des personnes.
Oui, c'est-à-dire que le livre est articulé autour des gens qui m'ont marqué. Et alors, je mets exactement sur le même plan André Doutel, le grand écrivain qui était mon ami et mon maître, Julien Gracq, avec qui j'ai entretenu une longue correspondance, d'autres personnes, bien entendu, d'autres personnalités de dimension nationale que j'ai pu connaître, et je les mets dans l'ouvrage exactement au même rang que les gens de mon village qui m'ont beaucoup marqué, qui furent aussi mes maîtres, à l'exemple de Petit Jean, un camarade d'école à moi, qui est un homme des bois, qui connaît parfaitement la forêt, son culte de la forêt, sa connaissance de la forêt, et en plus c'est un prodigieux tendeur de grives, c'est un de mes maîtres, et je le mets au même plan que, pour reprendre mon exemple, que d'Hôtel ou Gracq, également des gens de mon village qui m'ont énormément marqué, à l'exemple de celui que nous surnommions Boubou, qui était un forgeron, qui a eu une vie dramatique, à qui j'ai pu offrir enfin un peu de bonheur à l'heure de la retraite. Également, je n'ai pas vécu, vous le savez, qu'à Gesponsard, j'ai passé un moment de ma vie à Rethel, et là, je jouais au football à Tagnon, un petit village proche de Rethel, et je raconte dans le livre une chose qui m'a marqué à vie. Nous avions un coéquipier qui avait perdu ses deux bras dans sa jeunesse, écrasé par un tracteur, et je raconte que j'ai appris là ce qu'était la fraternité, car bien entendu nous aidions Popol, on l'appelait Popol, à s'habiller, et puis quand il marquait un but, je lui offrais mes deux bras. Et mes coéquipiers également.
On vous sent ému, Yanny Huraud, quand vous évoquez tout cela. Mais c'est vrai.
Ce sont les gens qui m'ont marqué, qui ont été mon université. Les gens, je vous dis, de toute dimension sociale, de tout rang intellectuel, tout complètement différent. ça m'émeut beaucoup d'évoquer leur haute mémoire.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, Yanni Huro, c'est que ces mémoires, ce n'est pas du tout une compilation de toutes les Beuquettes. Ça a déjà été fait. Moi, j'ai vu des livres.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un livre totalement nouveau où, comme le nom l'indique, je raconte, j'évoque tous les gens qui m'ont marqué beaucoup. Je vais prendre un autre exemple. Vous connaissez ma passion pour le club de football de Sedan. Moi, j'ai eu la chance et le privilège de passer des heures entières, quand j'ai fait mes livres sur l'épopée de Sedan, avec Louis Dubogues, avec les très grands joueurs, avec les grands dirigeants. Et tout ça, évidemment, je raconte tout ça, toutes ces histoires, parce que j'ai été aussi formé, moi, dès ma petite enfance, avec les histoires que ma grand-tante racontait au coin du feu à l'âtre. Moi, j'ai pas grand mérite à être devenu écrivain parce que j'ai eu affaire dès mon enfance à des conteuses ou à des gens qui contaient des histoires. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'invite les lecteurs, au fond, au coin du feu à l'âtre, à écouter mon évocation modeste, car il faut rester très modeste, des gens qui m'ont marqué. Je n'ai pas pu m'empêcher, bien entendu, d'évoquer également ma vie de professeur, car j'ai été enseignant au lycée de Rethel, au lycée Monge de Charleville-Mézières, et au lycée agricole de Rethel. J'évoque beaucoup, évidemment, mes anciens élèves, du moins ceux qui m'ont beaucoup marqué, à l'exemple de l'écrivain Guy Fécamp.
Tout cela, bien sûr, ce sont les mémoires de Yanni Huro qui paraissent aujourd'hui, vous pouvez vous le procurer, c'est aux éditions L'Ardennais, c'est en vente à partir d'aujourd'hui. On aura l'occasion, si vous l'acceptez, hein, Yanni, mais je sais que oui, on fera une émission un peu plus longue avec vous pour évoquer ce livre. Simplement, j'ai vu dans L'Ardennais de dimanche qu'il y avait, alors en une minute bien sûr, une petite anecdote à propos de Rimbaud. Vous dites, pour découvrir Rimbaud, il faut aller à Roche, qui est un village du sud des Ardennes. Et pas forcément, alors c'est une petite critique bien sûr, et pas forcément au musée Rimbaud.
Oui, bon là, si vous voulez, le journal a mis cet extrait qui est un petit peu polémique, qui peut paraître polémique, c'est pas du tout mon esprit. J'ai accordé beaucoup de place à Rimbaud parce que mon lien avec Rimbaud a quelque chose d'abracadabrantesque, pour reprendre la formule de Chirac, au sens où je ne suis pas du tout un lecteur de Rimbaud, autant j'admire Verlaine, autant je comprends Verlaine, autant moi j'ai pas peur de le dire, il y a bien des poèmes de Rimbaud auxquels je suis complètement hermétique, mais on m'a demandé un jour de faire un livre sur Rimbaud, je l'ai enraciné dans les Ardennes, et croyez-moi, c'est dans le petit village de Roche, près d'Attigny, là où il y avait la ferme familiale, là d'ailleurs où il a écrit Une saison en enfer. C'est le néant, Roche. Vous n'avez pas idée du petit village complètement perdu.
On va y retourner.
Et la gloire planétaire de Rimbaud là-dessus. Oui, je n'ai pas peur de dire, comme Patti Smith d'ailleurs, qui a acheté une maison à Roche, je pense que c'est à Roche, plus qu'au musée de Rimbaud, que l'on peut trouver la dimension pathétique de cet Ardennais qu'est des Rimbaud.
Merci Yanni Huro d'avoir été avec nous. On fera plus long la prochaine fois. Parution de votre livre aujourd'hui, 24 avril, Les Mémoires de Yanni Huro. Merci Yanni d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF.
Je vous en prie, au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h29, presque 18h30, pardon, nous avons avec nous Bernard Deloriston. Bernard Deloriston, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
De la Fondation du Patrimoine, en lien bien sûr avec Pierre Possémé. Alors il est vrai qu'on est intéressé toujours par l'histoire, par le patrimoine et surtout par nos terroirs, nos territoires. Alors aujourd'hui je crois que vous allez nous entraîner dans les Ardennes, mais auparavant vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, en tout cas pour les donateurs, car l'État a fait un effort au niveau du fisc et au niveau des dons, en particulier pour le patrimoine religieux. De quoi s'agit-il, Bernard Deloriston ?
Tout à fait, Jean-Pierre. Alors, tous les dons faits du 15 septembre 2023 au 31 décembre 2025 pourront être défiscalisés à 75% dans la limite de 1 000 euros, au-delà c'est 66%, pour tout le patrimoine religieux public dans des communes de moins de 10 000 habitants et dans la mesure où il y a une collecte évidemment avec la Fondation du patrimoine.
Alors ça va être exceptionnel, en particulier on pense à des villages où des églises doivent être rénovées, parce que moins de 1000 euros, ça peut pas paraître pas beaucoup, mais s'il y a plusieurs donateurs pour le même bâtiment, ça devient intéressant, et ça ne leur revient qu'à 250 euros quand ils mettent 1000 euros, ce qui est quand même assez exceptionnel.
On a un adage qui dit souvent que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est vrai qu'avec ce dispositif incitatif qu'a mis en place l'État, on peut espérer avoir des nouvelles opérations de mécénat et des dons pour restaurer nos églises et nos temples protestants.
Alors il est vrai que la liste n'est pas exhaustive ni limitative, on ne peut pas citer parce qu'on va forcément en oublier, mais vous avez sans doute déjà en tête des églises que vous avez déjà rénovées ou dans lesquelles la Fondation du patrimoine s'est impliquée, auxquelles on pense déjà, peut-être dans les Ardennes déjà.
Oui, dans les églises que j'ai à l'esprit, il y a notamment l'église de Sévigny-Wallep pour laquelle il y a une collecte en cours, l'église de Chagny, et puis demain l'église de Lefincourt, l'église de Château-Portien. Voilà, c'est tous les auditeurs qui nous écoutent peuvent nous être sensibilisés à ce sujet.
Et ça va faire plaisir aux maires. On reçoit souvent sur notre antenne de RCF des maires de petites communes qui souvent disent notre église, bien sûr, les maires ont en charge dans les communes le patrimoine religieux comme les églises. Ils disent ça coûte très très cher. Et là, peut-être que va se lever une armée. De donateurs, pourquoi pas, parce que les gens sont quand même attachés à leur église, même s'il n'y a pas de messe régulière. C'est là que leur famille ont été, il y a eu des enterrements, il y a eu des mariages, on est associés. Et vous dites, vous aussi, Bernard de Leuriston, que dans les territoires, on aime bien aussi avoir des figures emblématiques qui permettent à tout un territoire de s'identifier à des figures de l'histoire. Vous en avez peut-être à nous présenter, je crois, aujourd'hui.
Alors oui, de les Ardennes sont notamment connus pour Arthur Rimbaud, mais en réalité, il y a deux autres personnalités ardennaises qui méritent, à mon sens, d'être réhabilitées et mises en avant pour les Ardennes et qui seront, à mon sens, gages d'attractivité pour le territoire. Il s'agit de Jean Mermoz et de Albert Caco.
Alors, Jean Mermoz, l'aviateur bien connu, peu de gens savent. Bon, il n'est pas né tout à fait dans les Ardennes, mais juste à la frontière, déjà.
Oui, il est né en Menton, mais l'essentiel de son temps, il le passait chez ses grands-parents à Main-Brécy. Et son attachement aux Ardennes s'est développé, puisqu'il y a acheté un château à Roquigny, dit aujourd'hui Château Mermoz, pour sa mère en 1934, pour qu'elle puisse y habiter. Et quand lui partait en mission, il revenait la voir en avion.
Ça veut dire que la Fondation du patrimoine s'est intéressé, avec donc Stéphane Bern, s'est intéressé à ce château Mermoz à Main-Brécy dans le département des Ardennes.
Alors, il y a un mois à peu près, effectivement, la sélection des 18 sites emblématiques de la mission Bern, donc portée par Stéphane Bern, a été officialisée, et le projet pour tout le Grand Est, il s'agit bien de château Mermoz à Roquigny.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de choses à faire.
Ça, si vous saviez, oui. C'est un budget global, tout compris de travaux aussi bien sur les bâtiments que d'aménagement de musées, que d'aménagement des gîtes touristiques. On parle de plus de 6 millions d'euros de travaux, en sachant que la commune de Roquigny n'est pas forcément la commune évidemment la plus riche des Ardennes, loin de là. Donc la mission Bern sera un gros coup de boost et un bienvenu pour aider la commune à mener à bien ce projet absolument magnifique.
Vous l'avez rappelé, vous, en citant Roquigny, c'est qu'aujourd'hui il y a des regroupements communes, et Main-Brécy est sous la houlette de Roquigny d'une certaine façon. Et oui. Ils travaillent ensemble.
Oui, ils travaillent ensemble, et c'est vrai que la commune porteuse, maintenant, c'est Roquigny, qui a déjà, en fait, depuis plusieurs années, ce souhait de remettre en état la maison où habitait la mère de Jean Mermoz, pour en faire un lieu d'hébergement touristique et également un musée dans les communs dédié à Jean Mermoz et à Albert Caco, qui pour le coup est peut-être un peu moins connu de nos concitoyens.
Alors pour en revenir à ce château Mermoz, quand vous dites rénover, et vous l'avez bien signalé, il y a avec la rénovation du château lui-même, toutes les innovations en tourisme, en gîte, pour attirer, et c'est un impact économique important pour le département des Ardennes.
Alors la Fondation depuis tout le temps est très attentive à qu'est-ce qu'on fait du patrimoine qui est restauré, parce que restaurer pour restaurer, ça n'a pas forcément grand intérêt, parce que c'est plus une charge financière qu'autre chose. Par contre, si jamais le bâtiment a une affectation même différente de ce pourquoi il était fait initialement, c'est pas un problème tant qu'il vit à nouveau. Et effectivement, on croit fermement que les retombées économiques, touristiques et même sociales, puisque ça va très probablement générer des emplois pour gérer ce gîte touristique et ce musée, ça aura un impact énorme pour avant tout la commune de Roquigny, mais plus largement pour les Ardennes.
Alors, on va mesurer, et c'est difficile de le mesurer, mais au niveau national, Pierre Possémé et vous-même, à chaque fois qu'on vous rencontre, vous dites, c'est vrai que ça a été mesuré, et quand on met un euro pour la fondation, on a en retour, sur le plan des retombées économiques, plusieurs euros.
Et oui, un euro donné au patrimoine, à la Fondation du patrimoine, génère 21 euros de retombées économiques pour le territoire. Alors quand on dit économique, c'est l'économie directe, donc toutes les entreprises qui travailleront sur Château Mermoz, ou sur les églises d'ailleurs, et l'économie dite indirecte, c'est l'hébergement touristique, la restauration, le commerce, voilà, toute cette économie locale, en fait, qui va tourner grâce à ce type de projet.
On a évoqué à l'instant Jean Mermoz, qui est un personnage emblématique de l'aviation. Il faut rappeler quand même au passage que Reims a été une ville qui a compté dans l'histoire de l'aviation, avec Farman et beaucoup d'autres. Et puis, vous m'avez rappelé tout à l'heure, alors que je ne m'en souvenais plus, que Henri Guillaumet, qui était bien connu dans le domaine de l'aviation, lui aussi était lié cette fois au département de la Marne.
Exactement, Guillaumet, le troisième larron de l'aéropostale, lui est né à Bouy, dans l'est de la Marne.
À Bouy, dans l'est de la Marne. On aura l'occasion donc d'y revenir. Il y a le personnage de Mermoz, il y a aussi le personnage de Caco Vouziers. Et on pense bien sûr également à sa famille, à Michel Caco, qui a été maire de Muison pendant de nombreuses années. Et là, vous évoquez Albert Caco, qui est né à Vouziers.
Alors effectivement, Albert Caco, qui est pour le coup pas très connu, alors qu'à son époque, il était considéré comme le plus grand ingénieur français existant. Alors, beaucoup le connaissent avec sa casquette ingénieur du bâtiment, ingénieur béton, mais en réalité, il avait une autre casquette qui était moins connue, c'est sa casquette aéronautique. On lui doit d'ailleurs notamment le ballon dirigeable Caco, qui est un ballon d'observation pour observer les troupes ennemies. On lui doit également la création ou la cofondation du musée de l'air au Bourget. Et il était tellement génial que Georges Clémenceau en a fait son directeur technique de l'aviation militaire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un peu les circonstances qui font que on parle de ces aviateurs, mais c'est l'aviation qui est à l'ordre du jour aujourd'hui avec la Fondation du patrimoine, que ce soit avec Mermoz ou que ce soit avec Albert Caco.
Oui, cela nous permet de rappeler que la Fondation n'est pas une fondation des églises ou des lavoirs, mais en fait, la Fondation est là pour s'occuper de tous les patrimoines, y compris ceux qui touchent typiquement à l'aviation. Et la commune de Roquigny a des contacts avec notamment le musée de l'air pour voir dans l'avenir ce qui pourrait être fait.
C'est vrai que avec cette affiche, dire c'est le château où a vécu quand même la mère de Jean Mermoz et où Jean Mermoz venait régulièrement, c'est un plus pour le département des Ardennes, surtout qu'il y a de plus en plus de gîtes qui s'installent et il y aura des gîtes qui seront liés à cette nouvelle rénovation.
Moi, je crois beaucoup au fait que des grandes figures qui ont habité un territoire peuvent être source d'attractivité pour ces territoires. On a l'exemple, par exemple, de Renoir dans l'Aube ou de Diderot en Haute-Marne. Et d'avoir une figure supplémentaire telle que Mermoz ne peut être qu'un plus pour les Ardennes.
Alors, on aura l'occasion, bien sûr, de reparler de tout cela. Mais c'est amusant parce que juste avant, nos auditrices et nos auditeurs l'ont entendu. On évoquait Yanni Hureau. Qui tous les jours publie sa fameuse bequette dans le journal l'Ardennais et qui fait référence à ce patrimoine et à ses origines. Et franchement, là, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt chez les personnes d'aujourd'hui de réhabiliter le patrimoine, mais aussi les grandes figures qui ont donné de la vie à ces lieux. Et quand on va dans le château de Roquigny, bien, on pensera aux avions, on pensera à Jean Mermoz, on pensera à Henri Guillaumet du côté de Bouy et aussi d'Albert Caco avec son ballon sonde.
Et le, ça a tellement, d'ailleurs, la sélection à la mission Berne a tellement marqué les esprits que j'ai reçu assez rapidement après des demandes de particuliers pour pouvoir donner pour la restauration du bâtiment. Et effectivement, on compte faire appel en fin d'année, par contre. On va bien faire appel en fin d'année à tous les amoureux de Mermoz, de l'aviation, pour participer à cette belle opération et cette belle aventure.
Alors il faut se souvenir de tous ces aviateurs qui ont été. On peut aussi rappeler que dans les Ardennes il y avait des aérodromes. Il y a des gens qui se sont lancés avec aussi Roger Sommer, avec des personnes qui étaient à la fois dans l'industrie et qui étaient aussi dans le monde de l'aviation. Et puis toutes les femmes, il y a un certain nombre de femmes aviatrices de notre région. Il y en a une ou deux et qui avaient travaillé avec Maryse Bastier, qui était une aviatrice bien connue mais qui est décédée. Là aussi leur destin à tous ces aviateurs pionniers, ils sont presque tous, enfin beaucoup d'entre eux sont décédés soit par la guerre, lorsque Saint-Exupéry par exemple.
Souvent assez jeunes.
Et très jeunes, c'est vrai. Et ils ont marqué bien sûr leur époque. Alors pour terminer, Bernard Delauriston, on rappelle déjà cette nouvelle à propos de la possibilité de donner davantage, ou en tout cas de pouvoir profiter des abattements fiscaux, puisque 75% du don est restitué en quelque sorte, et donc on ne paye que 25%. Quand on fait un don de 1000 euros, eh bien finalement ça nous coûte 250 euros. Et il y en a beaucoup dans les villages qui veulent que leur église soit restaurée. Et là, vous pensez, enfin, vous, comme vous avez l'habitude, que ça peut avoir un impact quand même, ça.
Ah, moi, pour en avoir discuté avec Pierre Possémé, on en est persuadé.
Et d'ailleurs, tous les ans, depuis quelques années, malgré la crise économique, et en particulier celle du Covid qu'on a traversée, la Fondation du patrimoine a tenu le coup, on peut le dire.
La Fondation du patrimoine a tenu le coup, elle le tient encore malgré la guerre en Ukraine, malgré les augmentations de l'énergie. Parce que les gens sont attachés à leur patrimoine, le patrimoine n'est pas politique, le patrimoine a existé et existera demain, et c'est vecteur vraiment de lien. Voilà, on a vu des projets qui ont permis à des communes de se fédérer, de se réunir sous la bannière de leur patrimoine.
Alors en dehors du château Mermoz à Maimbrecy, en dehors des projets qui sont les vôtres, vous en avez aussi sous le coude un certain nombre. On va peut-être pas les citer tous ce soir, mais vous en avez peut-être dans l'esprit. Vous n'avez pas tout, bien sûr, de tous les départements, mais il n'y a pas que ça.
Non, il n'y a pas que ça, mais on va peut-être garder le mystère sur ce qui va sortir bientôt.
Bientôt. Alors ça veut dire que si vous dites ça, on a compris derrière que il y avait certainement une info que vous gardez sous le coude pour dans 15 jours, 3 semaines ou un mois peut-être, et que là, bien entendu, vous reviendrez nous la donner. Il faut respecter aussi les choses au moment où elles doivent être dites, ni avant ni après. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Merci en tout cas Bernard Delauriston d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Pierre.
Et puis on pense à nos amis de la Marne et des Ardennes qui, par leur contribution, aident à aménager et à améliorer le patrimoine, c'est-à-dire ce qui fait la beauté de nos territoires et de nos régions enracinées. Merci Bernard Delauriston d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF.
À bientôt Jean-Pierre.
Au revoir.
Le 18-19 ans.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
18h43 sur RCF Reims-Ardennes. Jean-Pierre Benoît, il n'est pas rare de vous voir dans les salles de basket, n'est-ce pas Jean-Pierre ?
Absolument, et surtout hier avec les Flammes Carolo à Charleville-Mézières.
Oui, je vois que vous suivez de ce dont on va parler, en tout cas Jean-Pierre, avec un mot de sport et de basket en particulier, avec un zoom donc sur la deuxième rencontre de Playdon des Flammes Carolo hier soir. D'ailleurs, Alice, vous y étiez aussi au match ?
Présente.
Ouais, voilà, vous étiez présente du côté de ce match. Vous avez apprécié la soirée ?
J'ai apprécié ma soirée.
Est-ce que vous avez apprécié le speaker ?
Le speaker était génial.
Ah, ça c'est gentil, on lui transmettra ces mots. Avec l'objectif maintien en tête, évidemment, les Ardennaises recevaient Roche-Vendée. L'objectif était clair, victoire obligatoire après le revers subi à Landerneau 4 jours plus tôt. Message reçu 5-5, les Flammes Carolo se sont imposées 77-72 à la Guinguette Arena. De quoi redonner le sourire au coach Romuald Diarno.
C'est des matchs avec beaucoup de tension. À l'approche du match, on sent que l'équipe, elle est tendue parce que faut faire attention à la petite balle perdue, faut faire attention à être prêt, à être en alerte. Ce soir, on est bien rentré dans le match, on gagne nos trois premiers cartons. Ça a été très intéressant parce qu'on a pu mettre la main, on a contrôlé un petit peu ce qui se passait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à changer la configuration du match en deuxième mi-temps. On l'a amené sur un match beaucoup plus défensif. Et ça, c'était important. Et je pense que c'est là où on va chercher notre victoire, parce que si on était resté sur un match offensif, je suis pas sûr que ça aurait tourné en notre faveur. Il n'y a pas à calculer, en fait, il n'y a pas à réfléchir. C'est plus à cette période-ci de la saison qu'on va changer beaucoup de choses. La forme prédomine autant que le fond. Et ça, c'est hyper important. Et quelqu'un qui s'est pas bien préparé mentalement en rentrant dans le match, il n'y arrive pas. Il peut rebondir la fois d'après, mais c'est très compliqué parce que tout s'enchaîne à 200 à l'heure. Il y a beaucoup d'activités sur les rebonds, il y a beaucoup de drives. D'ailleurs, il y a beaucoup de lancers francs aussi tirés par nos adversaires. Voilà, c'est un basket qui est différent. On est dans un contexte qui est un petit peu nouveau. Et il faut qu'on puisse s'adapter. Donc, soulagé d'avoir gagné dès le deuxième match, parce que c'était important de montrer qu'on était capable de gagner dans ces play-downs.
De quoi soulager le coach, le staff évidemment, mais de quoi soulager finalement tout un collectif à l'image de l'arrière, Sarah Chevaujon, meilleure marqueuse côté Charleville-Mézières avec 22 points inscrits.
On sentait que c'était un match sous tension et un match important pour les deux équipes. Voilà, je pense qu'on a vraiment répondu dans le combat, même si c'était peut-être pas le plus beau match. Voilà, on s'est vraiment battu, on n'a pas lâché. Et voilà, la roche est très, très coriace, très intense. Donc voilà, on s'était préparé à ce match-là et on a répondu présente.
Aujourd'hui, les Flammes sont au repos avant de reprendre le chemin de l'entraînement demain pour se préparer à d'autres rendez-vous décisifs, avec notamment le 2 mai un déplacement sur le parquet du Hainaut.
Pour les gagner au Hainaut, la particularité de ce calendrier qui est juste exceptionnel, mais c'est exceptionnel. Faire du business les mardis soirs, c'est génial. On n'a rien trouvé mieux comme idée, c'est top. Et on rejoue dans 10 jours. Donc heureusement qu'on le gagne, parce que tu l'aurais perdu. T'en remets au travail pour préparer le suivant après deux défaites. Donc c'est non négligeable aussi de pouvoir reprendre dès jeudi avec le goût de la victoire et de se décomplexer et puis remettre de l'intensité à l'entraînement et essayer de bien aborder le match du Hainaut.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes. Les matchs s'enchaîneront rapidement ensuite, puisqu'après Saint-Amand-Hainaut, les Flammes recevront Landerneau le 5 mai, iront à Roche-Vendée le 10 mai et clôtureront la saison à domicile le 14 mai face à Saint-Amand-Hainaut. De nouveau, encore deux victoires pour lors des quatre prochains matchs et le maintien sera assuré pour les Flammes Carolo. Peut-être qu'une seule pourrait suffire, mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et puis, c'est vrai qu'on est dans un magazine local sur les ondes de RCF Reims-Ardennes, mais peut-être aussi que certaines personne nous écoute via le DAB+, et nous entend du côté de l'Aube. Il y avait du football hier et la 34e journée de Ligue 2, à savoir que l'Estac à domicile a été accroché par Pau, match nul, 2-2, un résultat qui ne fait pas l'affaire des Troyens, qui restent englués à la 17e place du classement de Ligue 2, à 3 points d'Annecy. Malgré tout, ils ont repris un point hier soir. À 4 journées de la fin du championnat, l'Estac va devoir se battre fortement pour sauver sa peau dans la deuxième division du football français. Et puis, toujours en football, il y a quelques matchs qui sont décalés et puis des matchs qui sont au programme de façon totalement prévue, comme l'indiquait le calendrier initial. C'est le cas de la division 1 féminine avec la 21e journée qui se joue actuellement. Pour l'instant, après 18 minutes de jeu, le Stade de Reims féminin est en train de concéder le match nul 0-0 à Dijon, à savoir que ce résultat ne fait pour l'instant pas l'affaire des Rémoises, qui voit Fleury, qui mène déjà dans le même temps face au Havre 1-0, les dépasser au classement. Les Rémoises glisseraient donc à la 5e place et perdraient la 4e place, synonyme de qualification pour les play-offs du championnat de D1 féminine. Il restera une journée après celle-là. Évidemment, la rencontre de ce soir est encore longue. Et puis, il y aura un ultime rendez-vous, sait-on jamais, mais les Rémoises ont tout intérêt à s'imposer. Voilà pour les informations sportives.
Le 18-19 sur RCF.
18h48, Jean-Pierre.
Oui, on en profite sur notre antenne à 18h48 pour rappeler que la semaine prochaine, il y a des marches de vocation. C'est la semaine des vocations. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Véteux vont enfiler leurs chaussures. Ils vont faire des kilomètres. Tous les jours, il y a des étapes et bien sûr, nous en parlerons sur l'antenne de RCF. Par exemple, lundi, démarrage des Hauts-Butés jusqu'à Charleville. Mardi, ce sera du côté de la Thiérache, du Carmel de la Fontaine-Olive jusqu'à cette fois Signy-l'Abbaye. Puis, le 1er mai, ce sera Neuvisy. On restera aux alentours de Neuvisy puisque c'est le fameux pèlerinage de Neuvisy en même temps le 1er mai. Ensuite, on repartira dans la Marne du côté de Muison, puis on terminera du côté de Verzy. Ça veut dire que tous les jours, et en particulier à partir de lundi, on aura un certain nombre de témoins qui nous diront un peu ce qui va se passer, quel est le programme, et puis peut-être on aura l'occasion d'entendre quelques marcheurs qui nous donneront leurs sentiments.
Eh bien voilà, un joli programme Jean-Pierre dont on prend rendez-vous déjà avec pour vous pour la semaine prochaine. Une fois n'est pas coutume, on retrouve à 18h49 le maire, en fin d'émission, Bruno Cauchemet et l'édile de Romigny dans la Marne.
Bruno Cauchemet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion de vous connaître vous, de connaître votre commune. Alors justement, parlons un peu de votre commune. Combien y a-t-il d'habitants et vous êtes maire depuis combien de temps, jeune maire?
Alors, il y a 220 habitants, hein, ça reste très constant depuis de nombreuses années, et puis ben moi je suis maire depuis 34 ans, j'entame mon sixième mandat.
Et on peut dire que vous n'êtes pas lassé de ce mandat, parce que vous êtes un maire passionné.
Oui, passionné, et puis c'est une fonction intéressante, de rendre service aux gens c'est très intéressant, hein. Bon, on a des hauts, des bas, ce qui est normal, hein. Puis il va y arriver un moment où je laisserai ma place. C'est normal.
Alors justement, Bruno Cauchemet, est-ce que on peut en savoir un peu plus sur votre commune aujourd'hui, là où elle est située, mais quel type de population, quel type d'habitants habitent chez vous, les plus de 200 habitants?
Eh bien, si vous voulez, jusqu'alors c'était surtout c'est une commune rurale, hein. C'était des gens qui travaillaient dans les fermes, hein, un peu dans les vignes. On n'a pas de vignes, nous, mais encore aux alentours, on travaille en vignes. Et depuis le Covid, si vous voulez, ben la population a changé, puisqu'on a eu énormément de gens qui viennent de la ville, si vous voulez, qui sont venus sur Romigny. Et la population de Romigny a changé depuis 3 ans.
À combien de kilomètres de Reims vous êtes à Romigny?
On est à 25 kilomètres de Reims.
Alors peut-être qu'il y a des personnes qui, avec le Covid entre autres, se sont dit avoir une maison, d'ailleurs c'est certainement moins cher forcément, dans les villages, et qui ont trouvé véritablement chez vous un cadre de vie, une qualité de vie.
Oui, il y a ça. Bon, on est aussi à, disons, 6 kilomètres de la sortie de l'autoroute, hein, la sortie Dormant du A4. Donc il y en a qui travaillaient un petit peu vers Dormant, d'autres vers Reims, et ils ont choisi le milieu un peu du village. En plus, sur Villantardenois, il y a une supérette, on a tout un pôle de distribution de médecins, de choses comme ça. Donc, ça attirait quand même les gens. Et puis, le fait de venir à la campagne dans la verdure, quoi.
Alors, vous êtes souvent sollicité en tant que maire, hein, on disait même que vous êtes, c'était Gérard Larcher qui le disait, je le cite souvent, à portée d'engueulade, on voit le maire, des fois on le félicite, mais des fois on n'est pas content. Il y a beaucoup de maires qui s'interrogent d'ailleurs face aux responsabilités, parce que ils se disent, vu le travail qu'on doit faire, voilà, ils hésitent.
C'est sûr, on est souvent sollicité. Il y a du bon, puis il y a du pas bon de temps en temps. Bon, en règle générale, c'est toujours du bon. Moi, j'ai jamais eu de gros problèmes, hein. Mais il faut savoir aussi s'adapter à la population, s'adapter aux gens. Il faut faire des efforts. Nous, les maires aussi, hein, on doit faire des efforts, comme les citoyens doivent faire des efforts. Mais ça se passe bien, je vais pas dire le contraire.
Alors vous êtes au sein du Grand Reims également. C'est une question qu'on pose à chaque fois. Est-ce que quand même le maire reste le patron chez lui, malgré tout, malgré cette structure avec laquelle il travaille?
Oui, si vous voulez, moi j'ai participé énormément à la formation du Grand Reims, puisque j'étais président de ma communauté de communes. Et quand on a mis en route le Grand Reims, on s'est réunis, il y avait un comité de pilotage où je participais, hein. Donc le Grand Reims, oui, on perd des compétences, mais le patron dans la commune, c'est toujours le maire quand même. Et c'est justement un petit peu la difficulté avec les services du Grand Reims, où les services auraient tendance un petit peu à nous exclure. Mais comme je dis moi au nouveau maire qui arrive, c'est à nous de suivre le mouvement. Il faut surtout pas se retirer, ça c'est sûr qu'on perd la main, hein. Donc le Grand Reims, c'est quand même une bonne chose. Bah, y a du bon puis du pas bon. On a la chance d'avoir Catherine Vautrin, que je connais très bien, moi, puisque j'ai travaillé avec elle, hein, quand elle était députée, qui a toujours fait très attention de nous respecter, les maires. De dire, vous êtes là, c'est vous la cheville ouvrière, quand même, du Grand Reims. Alors, c'est pour ça que les maires, nous, il faut suivre les indications du Grand Reims. Il faut être là, il faut être à l'écoute de ce qui se passe avec le Grand Reims. Ça, c'est certain, on peut se faire dépasser.
Alors, quel type de demande, quelles sont les questions qui sont formulées par les habitants aujourd'hui chez vous, dans votre commune, à Romigny?
La grosse demande, c'était la sécurité de la RD 980 qui traverse le pays. Donc, on a fait des travaux là pour aménager, enfin de la peinture, pour aménager le ralentissement des voitures, parce qu'on a quand même une grande départementale qui passe chez nous. Et puis, bon, bah, dans l'ensemble, c'est le bien-être du village. Hein. On fait tout ce qu'il faut pour que les gens se trouvent bien dans le village. Hein. Bon, après, toutes les compétences, c'est le Grand Reims qui règle les problèmes. Hein. Mais les grosses demandes, c'est ça, c'est le bien-être du village.
Est-ce que vous avez, vous, Bruno Cauchemet, un certain nombre de projets à court ou à long terme avec votre commune? Évidemment, vous n'avez pas un budget exceptionnel pour faire tout ça, mais vous avez quand même quelques projets, quelques idées en tête?
Eh bien, des projets, oui, bon, on a un projet de réaménagement un peu d'un ancien lavoir, mais c'est un petit peu compliqué, qui se trouve sur un terrain, bon, qui date de la construction du... C'est la même construction que les Halles de Reims, donc nous, on voulait le faire un peu classé avec le Grand Reims, et puis ça s'est pas bien passé. Bon, là, on aurait un peu un projet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre propre, quoi, puis utile. Et puis bah, des projets, si on aurait un projet d'aménagement un petit peu de service aux enfants, de faire un peu un terrain de jeu, si vous voulez, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose. On a des projets, mais les projets, bah, c'est les finances qui nous bloquent un petit peu.
C'est le nerf de la guerre, hein, Bruno Cauchemet.
C'est le nerf de la guerre.
Alors, maire et vie professionnelle, vous l'avez été, mais vous êtes maire depuis plusieurs dizaines d'années. Maire et vie familiale, vous avez réussi à concilier les deux en une minute?
Eh ben, c'est pas facile, mais je dois reconnaître que mon épouse a très bien accepté ma fonction, hein, ce qui n'était pas si simple que ça, parce que j'étais cultivateur quand même. Donc moi, j'avais la ferme à tourner. Bon, on avait trois enfants. C'était pas toujours simple, mais je reconnais que mon épouse m'a toujours laissé libre de mes engagements, ce qui n'était pas toujours facile. Donc je lui rends toujours hommage pour ça. Et puis, bon, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Il y a de temps en temps, bah, j'étais dans les champs et il fallait que je revienne pour être présent. Et ce n'était pas toujours facile, hein, je reconnais. Oui. Hein,
Bruno Cauchemet, on termine, il nous reste à peine 20 secondes là. Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, je le demande à chaque fois, est-ce que vous êtes un maire heureux? On vous sent passionné. Vous êtes heureux d'être le maire, finalement?
Oui. Avec tous les problèmes qui peuvent se greffer. Hein.
Mais malgré tout, bah, le plus l'emporte.
Ah ben, moi, le plus l'emporte, oui, tout à fait. Dans ma commune, avec mes gens. Hein.
Merci en tout cas, Bruno Cauchemet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Et merci à vous aussi, Jean-Pierre. Vous avez été sur tous les fronts ce soir. On vous entendait tout à l'heure avec la Fondation du Patrimoine. On vous a entendu avec Yann Huro, avec Robert. Et puis là, avec un maire, vraiment, vous nous avez emmené à travers toute la Champagne-Ardenne.
Eh oui, mais on m'entendra peut-être un peu moins dans une dizaine de jours. Ou comme vous, Alexis,
La semaine prochaine, c'est pareil.
Je prends du recul la semaine prochaine.
Voilà, chacun son tour.
Chacun son tour.
On se passe la balle. Une autre personne va nous emmener à travers la Champagne-Ardenne, ou au moins à travers le Grand Reims et le département des Ardennes. Alice Darc, notre stagiaire à la rédaction, c'est pour la météo. Alice, bonsoir ou rebonsoir.
Rebonsoir Alexis, rebonsoir à toutes et à tous.
Pour les bruitages, on remercie Jean-Pierre. Quel temps en Champagne-Ardenne pour demain, ou en tout cas à Reims et dans les Ardennes?
Demain matin, le ciel sera ensoleillé du côté de Reims, contrairement au ciel de Charleville-Mézières, Sedan, Rethel et Vouziers qui sera couvert. Les températures resteront aux alentours des 5 degrés à Reims, Rethel et Vouziers, et elles seront plus fraîches avec 2 degrés à Charleville-Mézières et Sedan. Dans l'après-midi, quelques averses sont prévues à Charleville-Mézières et un ciel gris couvrira les Ardennes et Reims. Les températures augmenteront pour rester aux alentours des 10 degrés. Le ciel se découvrira dans la soirée pour laisser place au soleil. Les températures resteront les mêmes et seront donc de 10 degrés environ. Une nuit claire et fraîche est annoncée avec 4 degrés à Reims et dans les Ardennes. Demain, nous fêterons les marques.
Merci Alice pour cette météo. Et puis s'il y a des petits marques dans les Ardennes, une bonne fête à tous les marcassins, Jean-Pierre.
Absolument. Merci quand même à vous, et on aura l'occasion bien sûr de se retrouver demain pour de nouvelles informations. Et demain matin, nous accueillerons en direct, enfin en léger différé, le responsable des gares de Champagne-Ardenne, de la direction des gares, Hervé Châtriot. Merci.
Vous avez bien tenté.
Oui, mais j'étais un peu perturbé.
Mais vous nous avez tellement emmené à travers la Champagne-Ardenne qu'il va bien falloir reprendre le train demain pour remonter toutes ces routes. Et j'allais dire, toutes ces lignes, ce sera avec Hervé Châtriot, donc, qu'on réentendra également dans le magazine local. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci, Alice.
Merci, Alexis. Merci, Alice. Merci à tous. Bonne soirée.
Au revoir.